Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais, sous ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient à cette vue. Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Le froid, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Pierre, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Ce dimanche est assez particulier parce que c'est très rare de constater que dans un dimanche du temps ordinaire, les trois lectures tourne autour du même thème. Généralement, il y a toujours lien entre la première lecture et l'évangile. Mais aujourd'hui, on trouve ces ponts-là entre les trois lectures. En fait, toutes les lectures d'aujourd'hui nous parlent de l'appel du Seigneur, le Seigneur qui nous invite à collaborer à son travail de rédemption. Commençons avec la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe et qui concerne effectivement la vocation même du grand prophète Isaïe. C'est frappant de voir que Dieu s'est révélé à lui au temple, le grand temple de Jérusalem. Et Isaïe n'en revenait pas de voir la majesté de Dieu. Dès qu'il le décrit, on voit le Seigneur qui remplit le temple, le pan de son manteau, arrivé jusqu'au-dessus du temple, jusque dans les plafonds. Et le temple était rempli de fumée. C'est la fumée de l'encens. La fumée de l'encens qui représente justement notre élan vers Dieu, qui représente notre prière qui monte vers Dieu, qui représente la présence magnifique du Seigneur, que le lieu où était Isaïe était un lieu saint. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'il y a des séraphins qui sont autour de Dieu et qui chantent « Saint, Saint, Saint » trois fois. Le début de notre sanctus que nous professons, que nous chantons à toute l'Eucharistie, tire son origine de cela, pour rappeler que l'Eucharistie que nous célébrons ne concerne pas seulement les fidèles qui vivent dans ce monde présent, mais l'Eucharistie nous relie à toutes les personnes qui nous ont précédés et qui vivent aujourd'hui dans le royaume de Dieu. L'Eucharistie nous met en communion aussi avec les anges, avec la cour céleste qui ne cesse de louer Dieu. Alors, quand à chaque messe, nous chantons le Sanctus, que nous le récitons, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans la célébration eucharistique, mais que nous faisons partie d'une famille immense, la famille des enfants de Dieu, qui est une famille céleste mais qui a aussi une partie de membres sur la terre, qui est aussi donc une famille terrestre. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir pour ce moment, c'est de voir la réaction d'Isaïe. Isaïe, en se rendant compte que le Seigneur s'était révélé à lui, il a senti directement la grande distance qui le séparait de Dieu. Il a senti son état d'indignité, son état de pécheur. Alors, il dit, mais là, moi, je vais mourir. Comment est-ce que j'ai pu voir la grâce de Dieu? Mais Dieu, tout de suite, va répondre à son inquiétude. Il envoie un ange avec un charbon ardent. Moi, je dirais que c'est le charbon ardent de miséricorde qui pose sur les lèvres d'Isaïe. Et du coup, il est purifié. Il peut commencer à annoncer la parole de Dieu. Il a été donné toutes les grâces, toutes les bénédictions dont il avait besoin pour porter cette parole de Dieu et annoncer. Pourquoi le Seigneur pose, qui est-ce que je vais envoyer? Tout de suite, Isaïe répond, Seigneur, envoie-moi, j'irai pour toi. Mes amis, quand nous regardons dans notre vie, nous avons ces moments-là forts dans notre spiritualité où le Seigneur vient nous toucher, vient avec son charbon ardent de miséricorde nous relever. Il y a de belles situations qu'on connaît dans la vie de certains saints. Par exemple, quand on prend Saint Jean-Marie Vianney, on disait qu'il avait une certaine profondeur quand il célébrait la messe. Et les gens étaient suspendus à ses lèvres, suspendus à son attitude de pieuse quand il célébrait la messe. Il touchait facilement le cœur des gens par son attitude, parce qu'il était conscient de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu autour de lui. Et c'est aussi une interpellation pour nous, quand nous entrons dans l'église de Dieu, nous gardons une attitude d'adoration. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus de la présence de Dieu dans nos églises. Et on ne peut pas oublier cette présence de Dieu qui est toujours là avec éclat dans les cœurs de nos voisins, dans le cœur des personnes qui nous entourent. Regardez, dans la deuxième lecture, il y a la même réaction. Paul s'est rendu compte qu'en fait, il n'était jamais destiné à devenir disciple de Christ. Pourquoi? Parce qu'au début du christianisme, Paul a persécuté les chrétiens. Il voulait les empêcher de vivre leur foi. Et il ne comprenait pas que ces gens-là, de la même famille que lui, le judaïsme, trahissaient la foi des pères. Et il était prêt à les mettre en prison et à les faire disparaître. Et voilà que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. Et à ce moment-là, c'était un changement renversant. Paul s'est rendu compte qu'en fait, il persécutait Jésus lui-même en persécutant son église. Et à partir de ce moment-là, ce sera un virement, un changement total dans sa vie. Et il va devenir un apôtre. Mais alors là, il se rend compte que il a travaillé, il a créé des églises, il a fondé des églises dans l'Asie mineure. Et pour se rendre compte en fait que ce n'est pas lui qui a fait tout cela, c'est la grâce de Dieu à travers lui. Et il se rend, quand il présente le noyau de l'église, le noyau de la foi, il rappelle que c'est la résurrection. Le Seigneur s'est manifesté à certaines personnes, pas tout le monde, mais à certaines personnes. Mais il s'est manifesté aussi à Paul, un important, dit-il. Lui le plus petit des apôtres, lui qui avait persécuté cette église, lui qui n'était pas digne de recevoir tant de grâces, et voilà qui reconnaît la grâce du Seigneur. Encore là, c'est le charbon ardent de la miséricorde de Dieu qui a touché Paul, qui a transformé Paul. Il s'est rendu compte de la grandeur de Dieu dans ce monde, que Dieu qui accompagne, c'est Dieu en fait qui prend en main la destinée de son salut, la destinée du salut de l'humanité et de la promotion, de l'extension de son Église. L'Évangile nous présente pratiquement le même thème. On est devant le Seigneur qui fait la prédication et à la fin, il demande aux apôtres qui étaient des pêcheurs, des personnes expérimentées, qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre, et dans leur conception, quand tu avais travaillé la nuit sans rien prendre, le jour, c'est évident que tu auras le même résultat. Et voilà qu'un menuisier, un charpentier, prédicateur qui leur propose, cette fois-là, de jeter le filet encore, d'aller au large, de jeter le filet. Normalement, la réaction serait de ne pas suivre la recommandation d'une personne non expérimentée. Mais Pierre obéit à la parole du Seigneur. Il avait déjà entendu certainement, parce que Jésus est au début de son ministère, Pierre l'avait déjà entendu parler. Il avait peut-être assisté à certains de ses miracles. Alors en écoutant cette parole de Jésus, cette recommandation de Jésus, il obéit. Il dit, cet homme-là a quelque chose en lui, quelque chose de profond. Il accepte, il croit, il obéit. Et voilà le résultat, c'est que c'est la pêche miraculeuse. Il a pu prendre beaucoup de poissons. Et il a la même réaction que Paul, la même réaction qu'Isaïe. Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. L'exemple le plus fort que moi je vois, c'est quand nous étions jeunes et que nous étions autour d'un feu de camp, la nuit. Alors, plus tu t'approches du feu du camp, plus tu sens sa vigueur, sa force, sa chaleur. Plus tu t'en éloignes, eh bien, moins tu sentiras la puissance du feu. Mais maintenant, plus on s'approche de Dieu, plus on approfondit la relation avec lui, plus on prie le Seigneur, plus on s'approche de lui, eh bien, on sent sa majesté, on sent sa sainteté, et nous sentons, par le fait même, par ricochet, nous sentons notre état d'indignité, nous sentons notre état de pécheur. Voilà, la grâce qu'on va demander aujourd'hui, c'est d'être comme Isaïe, d'être comme Paul, d'être comme Pierre lui-même et les autres apôtres qui étaient avec lui, dans le sens que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aller au large. Au large, c'est les endroits où on a peur, où nous ne sommes pas confortables pour parler de notre foi, pour porter témoignage de notre foi. Mais il faut se rappeler, comme Isaïe, comme Paul, comme Pierre, que nous ne serons jamais seuls, que le Seigneur est avec nous, que c'est lui, en fait, par sa grâce, qui va nous porter, nous donner le nécessaire, l'outil nécessaire pour pêcher les âmes pour lui, pour attirer les personnes à lui. Alors, dans ce ministère, dans ce travail de baptiser, nous ne serons jamais abandonnés. C'est le Seigneur qui fait la grande part. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Tournons-nous vers lui maintenant pour lui demander une grâce spéciale qui nous apprenne à vivre pour lui. Parce que finalement, on devient disciple, on n'est pas disciple. Alors, on le devient par la grâce de Dieu. On vient du moins pour passer au plus. Et ce passage-là se réalise par notre Seigneur. Alors, tournons-nous maintenant vers lui pour lui demander de continuer à nous donner ses grâces et bénédictions pour que, au jour le jour, nous devenions toujours davantage ses disciples, des personnes qui sont appelés et qui acceptent sa parole, des personnes qui obéissent son invitation à travailler avec lui, des personnes qui se mettent à sa disposition pour la réalisation du plan de Dieu, du salut de l'humanité, des personnes qui veulent collaborer avec le Christ, avec le Seigneur. Alors, en fait, nous devons porter des sentiments d'action de grâce parce que le Seigneur ne fait pas de différence. Il ne tient pas compte de nos limites, il ne tient pas compte de nos faiblesses, il ne tient pas compte de notre instabilité. Malgré tout, il nous prend tel que nous sommes et veut nous faire grandir et il veut nous faire accomplir des choses merveilleuses par sa grâce. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous habiter et nous rappeler que nous sommes des disciples appelés à annoncer la bonne nouvelle en conformité avec le Seigneur. Amen.